Corinne, on attend d'aller dans la prière. Oh Dieu, tu sais qu'avec cette réunion, nous arrivons à la conclusion spirituelle de ce camp de travail, même s'il se continuera encore pour quelques-uns demain. Et nous voulons te demander une grâce tout à fait particulière dans cette soirée de Pentecôte. Que ton esprit soit tellement agissant en nous que nous ne puissions dire que ce qui vient de toi. Nous sommes conscients que nous parlons devant Dieu en Christ, que notre premier auditeur, c'est le Père Céleste. Et si nous parlons de Jésus, de son Fils bien-aimé, nous voudrions en parler comme nous devons le faire, avec un cœur qui brûle d'amour, avec une intelligence éclairée, avec une conscience purifiée, et que ta parole si merveilleuse qui nous donne les grands jalons de ton plan éternel nous devienne infiniment chère et que ce soir nous puissions nous rendre compte que nous avons encore tellement à apprendre, tellement à apprendre à te connaître, ô notre Dieu, pour pouvoir mieux t'aimer, mieux t'obéir, mieux te servir, être vraiment dans ces dernières heures de notre vie, dans ces dernières heures du temps de la grâce, des témoins qui reflètent quelque chose de Jésus comme toi, Jésus, tu reflétais le visage de ton Père. C'est la grâce que nous te demandons avec l'assurance que tu nous as entendus et que tu nous as déjà répondu. Ouvre nos cœurs et donne-nous ta paix. Amen.
Amen.
Eh bien, mes amis, vendredi soir, quand nous commencions ce camp de travail, nous nous sommes arrêtés sur le premier verset du premier chapitre de la Genèse, sur ces 9 mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avons fait remarquer, je me répète, que Dieu n'essaye pas de nous donner des preuves de son existence, il se présente devant nous. Alors comment pouvons-nous savoir que ce qui nous est dit dans la Genèse nous présente le vrai Dieu? On entend parler de tant de dieux dans ce monde. Comment pouvons-nous être assurés que ce Dieu de la Bible est le vrai Dieu? C'est une question aussi qui se pose pour nous. Il se présente, oui, mais qui nous dit qu'il est le vrai Dieu et qui c'est lui vraiment le Créateur? Le Tout-Puissant. Eh bien, si vous lisez les chapitres du prophète Ésaïe, comme nous l'avons fait hier, nous avons découvert que le Dieu d'Israël s'intitule le seul vrai Dieu, de sorte que le Dieu de la Genèse, c'est le Dieu qu'a connu Israël. Et comment sommes-nous certains que nous, nous adorons le vrai Dieu? Eh bien, c'est par le témoignage d'Étienne qui nous dit que, d'instant avant de mourir, que le Dieu de gloire est apparu à Abraham un jour. Où? En Mésopotamie, dont cette terre qui s'appelle maintenant l'Irak. C'est là que Le Dieu de gloire est apparu à Abraham, le père des patriarches. Et toute la Bible témoigne que c'est lui le vrai Dieu. Et qu'au commencement, il a créé le ciel et la terre. Alors nous nous sommes posé une question. Qu'est-ce qu'il faisait avant le commencement? Et j'ai été très frappé parce que vendredi soir, il y a un verset que je ne vous ai pas cité, qui n'est pas venu en ma mémoire. Qu'est-ce que Dieu faisait? Où était avant le commencement de la Genèse? Et c'est dans la nuit qu'il m'a été cité cette parole, dans mon sommeil. Et cela m'a réveillé. Ce texte que je vous ai rappelé et que j'aime à vous rappeler encore aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on ait les grandes bases. Avant que les montagnes fussent nées, avant que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas d'explication. Dieu était là. Avant la création, il y avait Dieu. Mais alors, ce Dieu, on s'est posé la question avant le commencement, puisqu'il était là, mais qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, nous avons été, je veux le croire, émerveillés des réponses de la parole. Dieu préparait le plan de la création, et non seulement le plan de la création qui comportait forcément un risque, car si dans son cœur Dieu avait décidé de créer un être au bonheur duquel il allait travailler, un être qui serait à son image et à ses ressemblances, ce serait donc un être libre. Et toute liberté comporte un risque. Alors, si par exemple, l'homme disait non à Dieu parce que Dieu ne voulait pas s'imposer à lui, Dieu est amour, et il fallait que, à son amour, l'amour de sa créature réponde. Alors il y avait un risque. Si Dieu ne soumettait pas l'homme aux mêmes lois que les étoiles, que les mondes qu'il allait créer, qui obéissent à des lois naturelles, s'il faisait une exception pour l'homme, exception vraiment unique, puisque les animaux aussi subissent des lois, eh bien, si l'homme disait non, qu'en serait-il de ce plan de Dieu qui était conçu dès avant la fondation du monde? Eh bien, il a couvert le risque d'une création libre par le plan de la rédemption qui était établi dès avant la fondation du monde. Donc rien n'est venu au hasard. Et avec le Fils éternel qui était dans le sein du Père, eh bien, ils s'entretenaient ensemble. Et ces entretiens ont un nom, c'est le Saint-Esprit. Un Dieu d'amour, c'est un être qui doit aimer. Et quelqu'un qui aime, bien, il aime un autre être. Il aime, et cet être, nous le savons, c'était son Fils, le Fils éternel, la parole éternelle. Et il était auprès de Dieu, il était avec Dieu avant la création du monde. Et le Père aimait le Fils, et le Fils aimait le Père. Et tout ce qu'a fait Jésus sur la terre, ce sont des choses qu'il avait vu faire par son Père. Il nous dit que, comme homme, il n'a jamais rien fait qu'il n'avait vu faire par le Père, et il n'a jamais rien dit qu'il n'ait entendu dire par le Père. De sorte que vous voyez qu'avant la création du monde, il y avait des entretiens entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quelque chose de parfaitement adorable. Vous dépassez le temps. Nous sommes dans l'éternité avec Dieu et nous y entrons si peu dans ces choses éternelles. Oui, avant la création du monde. Dieu établissait son plan d'amour. Et ce qu'il avait décidé avant de créer les cieux et la terre, il avait décidé de créer un être au bonheur duquel il allait travailler et qu'il prédestinait à être semblable à l'image de son fils. C'est quelque chose d'incroyable. Et alors Dieu a commencé par créer les cieux. Ça fait ce que je vous expose, c'est l'ensemble de l'Écriture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est dit ensemble, mais il a créé d'abord les cieux. Et il a créé les habitants des cieux, qui sont quoi, selon l'Écriture? Les anges. Il a créé les anges avec toute leur hiérarchie qu'il voudrait aussi étudier. C'est un sujet passionnant. Je ne vous donne que quelques pistes de réflexion. Étudiez les anges, les enfants, leurs anges, qui voient chaque jour la face du Père. Il n'y a que les enfants qui voient cela. Dans les cieux, quelle vision pour les enfants. Les enfants ont leur ange. Et puis, aussi, chacun de nous, nous avons notre ange. L'ange de Pierre, hein, vous le connaissez. On dit, mais c'est son ange. Oui, nous avons des anges qui nous entourent. Nous ne les avons peut-être pas vus, mais nous devons être conscients qu'il y a des anges. Alors, ces anges étaient les créatures, les premières créatures de Dieu, et ils étaient appelés fils de Dieu. Et quand Dieu a créé la terre, il est dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire ces anges, ces êtres supérieurs, mais qui avaient été aussi créés libres, eh bien, ces êtres étaient là, dans la compagnie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de ce Dieu trinitaire. Et quand Dieu a créé la terre, eh bien, nous l'avons lu, et je vous le répète, c'est dans le chapitre, mais il faut lire toute la Bible. Et voyez-vous, il ne faut pas être seulement attaché à certaines portions de la Bible. Il faut la lire depuis la première page à la dernière, il faut reprendre le livre. C'est comme ça que mon grand-père a commencé à sa conversion à 75 ans. Il s'est mis à lire la Bible et il la lisait depuis la première page jusqu'à la dernière. Quand on lui disait, où en es-tu, ben j'en vais recommencer. Et il a lu cela jusqu'à l'âge de 90 ans. Ça vaut la peine encore 15 ans de lecture biblique. Et avant, bien, il était esclave de l'alcool. Il était un homme violent, un grand fumeur de pipe. Il incendiait le lit de ma grand-mère, parce qu'il s'endormait avec sa pipe, ça flambait. Et bien le Seigneur l'a délivré de tout. Et je me souviens, élevé sur les genoux de ma grand-mère, je l'entends encore me dire, on m'appelait tonton dans ce temps-là, tonton, ben tu sais, grand-papa viendra au Seigneur. Moi je ne le verrai pas, mais je sais qu'il viendra au Seigneur. Elle est morte à 70 ans, il s'est converti le jour de son enterrement. Nous devons croire à la puissance de Dieu, rien n'arrête la puissance de Dieu. Et ma grand-mère, elle est morte dans la foi, dans cette certitude. Ah mes amis, comme nous devrions être plus versés dans les Écritures, aimer les Écritures. Dans Job, nous avons cette réponse. Dieu dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. À ce moment-là, il y avait un concert angélique merveilleux. Les anges, dans toutes leurs catégories, chérubins, séraphins, archanges, Lucifer, ils étaient tous dans l'admiration devant les œuvres merveilleuses que Dieu créait. Alors ne me dites pas que Dieu a créé un tohu-bohu, a créé un désordre avec la matière. Ce que nous avons au verset 2 du premier chapitre de la Genèse, il est dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, puis ensuite, et la terre était désolation et vide. Alors que dans le prophète Ésaïe, il est dit que Dieu n'avait pas créé la terre pour être vide, mais pour qu'elle soit habitée. Et vous ne pouvez pas concevoir un Dieu créateur tel que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a employé son Fils pour amener toutes choses à l'existence, avec la puissance du Saint-Esprit. Vous ne concevez pas que Dieu crée lui-même le chaos. C'était une terre merveilleuse. Et je l'ai dit en passant qu'on peut penser que cette terre créée par Dieu, acclamée par les anges, était semblable dans toute son étendue à Éden, un lieu de délices et de charme. Ce qui pouvait sortir des mains de Dieu ne pouvait être que bon, que bien et que beau, une splendeur. Et alors, il a mis comme gérant de cette terre, il y a mis d'abord les anges. C'est ce que nous apprenons au travers de toute la Bible. Les anges ont un certain nombre de villes dont ils sont les gardiens, un certain territoire auquel qu'ils assujettissent. Et alors, ce qui semble être arrivé, c'est que le Lucifer, le porteur de lumière, un des premiers anges de Dieu, a reçu cette mission de gérer cette terre si belle que Dieu avait préparée. Mais les révélations de Dieu dans les temps éternels se sont faites pas tout à la fois. Et alors, les anges, selon les Écritures, sont les serviteurs. Les anges étaient les serviteurs de Dieu créés en faveur de ceux qui devaient hériter du salut. Alors ils étaient les serviteurs. Mais tout à coup, ils apprennent que Dieu va créer un être et que cet être, il le prédestine à être semblable à son Fils. Donc si vous lisez le chapitre 1er des Hébreux, eh bien, vous pouvez comprendre qui a dû se passer chez les anges qui tout d'un coup se disent, mais alors, cet être que Dieu va faire, il sera plus haut que nous, il sera supérieur aux anges. Quoique créé d'un peu inférieur aux anges, il sera donc supérieur à nous. Et il faut bien qu'on s'explique d'où est venu le mal. Le Seigneur nous le dit. Et il nous montre que ça s'est fait au commencement, c'est pour ça que vous pouvez prendre tous les mots commencement dans l'Écriture, ça s'est fait au commencement. Jésus désignant les Juifs, il leur dit, vous avez pour père le diable. Car le diable, dès le commencement, pêche, il n'a pas persévéré dans la vérité. Ça veut dire, s'il n'a pas persévéré, c'est qu'il était avant dans la vérité. Il n'a pas été créé Satan, il a été créé ange, porteur de lumière, mais il n'a pas persévéré dans la vérité, il est devenu l'adversaire de Dieu. Mais comment est l'adversaire de Dieu? Eh bien, il a voulu devenir comme Dieu, il a voulu être semblable à Dieu. Il a voulu prendre la place de cet être que Dieu avait dans sa pensée. Il a voulu ravir au fond la place de l'homme que Dieu voulait créer. Et il s'est élevé, alors vous avez le 14 de, je vous le cite en passant, le 14 des Ésaïe et le 28 d'Ézéchiel, qui peuvent vous montrer l'activité qu'avait le chérubin loin, qu'avait Lucifer avant son opposition à Dieu. Et cette opposition à Dieu, forcément, a eu des conséquences terribles. Et nous pensons que l'état de la terre, au verset 2, est la conséquence de cette opposition de Satan, de Lucifer, devenu Satan, qui a voulu monter à la montagne de Dieu, puis dire à Dieu, enfin, c'est moi qui vais diriger tout cela. Et il est rejeté, mais il n'est pas anéanti, parce que Dieu n'a pas anéanti cet ange. Il va rester sous la domination de Dieu. Mais on peut dire que la terre qu'il devait gérer, eh bien, il a détruit l'environnement. Bon, c'est exactement ce que les hommes font maintenant. Ils sont en train de détruire l'environnement. Eh bien, ça c'est le travail du diable. L'environnement a été détruit, cet environnement merveilleux, et la terre est devenue quoi? Désolation. Et mais ça c'était l'attaque de l'ennemi, il voulait détruire la terre pour que l'homme ne puisse pas être créé sur la terre. Mais il y a l'action de Dieu, et que va faire Dieu? Eh bien, il va restaurer, depuis le verset 3, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais je vous donne juste quelques points de repère, le Seigneur restaure ce qui a été ruiné dès le commencement. Parce que dès le commencement, le diable a péché. Et Satan, devenu Satan, avec les anges qui l'ont suivi dans sa révolte, qui sont devenus les démons, eh bien, il a tout fait pour empêcher que cette terre soit restaurée. Mais il est vaincu, dans un sens, il n'est pas plus fort que Dieu, et c'est le conseil de Dieu qui s'est accompli. Et alors vous avez les 6 jours de la restauration, mais je n'en parlerai pas, on en parlera dans la retraite qui vient de cette révélation progressive dans l'homme. Ça commence par Dieu dit que la lumière soit, au sein des ténèbres tout à coup la lumière arrive, je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon souffert, tout d'un coup tout est clair et voilà, la terre est restaurée. Et on pourrait dire, en souvenir de ce temps d'Éden, Dieu a fait un jardin qui s'appelait Éden, délice et charme. Ou alors, il y avait toute espèce d'arbre bon à manger, une véritable splendeur. Et Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Satan n'a pas pu s'opposer à cela. La terre est là, mais une terre complètement restaurée. Puis maintenant, il y a l'homme, innocent, que Dieu instruit, mais qui est créé libre aussi. Et Dieu lui donne seulement un commandement de ne pas manger du fruit d'un certain arbre. Ce n'était pas le fruit qui était mauvais, mais c'était un ordre que Dieu lui donne. Tu peux manger tous les fruits du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non, tu n'en mangeras pas. Et donc, Dieu ne le privait pas. Alors, Satan est là. Donc, lui a déjà eu sa chute. Lui est déjà tombé. Et c'est un être tombé qui s'empare du serpent pour s'approcher de l'être le plus faible, la femme. Et il n'y a pas, entre chapitre 1 et chapitre 2 de la Genèse, des contradictions. Dans le chapitre 1, on voit la création du mâle et de la femelle, homme et femme, littéralement. Donc, dans le chapitre 1, la femme est vue déjà dans la création d'Adam, puisqu'elle va sortir d'Adam. Dans le chapitre 2, nous avons des détails qui sont absolument merveilleux. Et
de nouveau, vous apprenez, Jésus disait, au commencement, parlant du divorce, il n'en était pas ainsi, il revient toujours, au commencement, donc Dieu, Jésus croyait à ces récits-là, et il les cite, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, Satan met le doute dans le cœur d'Ève au sujet de la bonté et de l'amour de Dieu, et il ment. Il leur dit, vous ne mourrez pas, alors que il sait très bien qu'ils mourront. Parce que Satan est devenu le prince de la mort par son péché. Elle sait bien qu'ils mourront. Et alors, vous connaissez la tentation. Ève succombe. Elle pense qu'en mangeant du fruit, elle deviendra comme Dieu, connaissant le bien elle-même. Mais si elle était restée dans la dépendance de Dieu, Dieu l'aurait instruit. Le plan de Dieu s'accomplirait de toute façon. Mais hélas, au lieu d'aller manger à l'arbre de vie, ce qui lui aurait épargné la mort et les humiliations du sépulcre, et l'absence de Dieu, eh bien, elle a mangé du fruit défendu. Et Satan est devenu le vainqueur. Et c'est lui qui est devenu, à ce moment-là, le prince de ce monde. Qui devait être le prince de ce monde? C'était l'homme, comprenez-vous? C'était la créature de Dieu, créée à son image, qui devait gouverner le monde. Fructifiez, remplissez la terre, assujettissez-la, et Dieu avait donné à l'homme une intelligence extraordinaire, bien mieux que tous les ordinateurs qu'on peut avoir. C'est lui qui a donné les noms à tous les animaux. Sous le regard de Dieu, Dieu lui a laissé donner les noms aux animaux pour voir comment il les nommerait, puis Adam n'a pas trouvé d'aide qui lui corresponde, un face à face, il a vu tous les accouplements possibles. Mais lui, il n'a pas trouvé un face à face, un être qui lui corresponde. Et alors, c'est là que Dieu intervient et lui crée cet être. Et comme Dieu est saint, eh bien, il doit juger. Et vous connaissez le chapitre 3 de la Genèse. L'homme qui aurait dû dire non, et il a voulu faire plaisir à sa femme, il n'a pas voulu laisser sa femme seule, et ils se sont unis dans le péché. Et Dieu a dû prononcer les jugements, d'abord contre Adam. Il lui demande, as-tu mangé du fruit? Il dit, la femme que tu m'as donnée, il cherche à se justifier, à jeter la faute sur Dieu, puis vous connaissez tout le reste. Mais quand Dieu doit chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, il ne peut pas s'empêcher de leur faire une promesse de miséricorde, et vous la connaissez. Hein? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et ta semence. Elle te brisera la tête et toi tu la blesseras au talon. C'est la première promesse d'un libérateur. Et voilà. Alors Satan sait qu'il y aura un libérateur qui viendra. Mais d'où viendra-t-il, ce libérateur? Mais il pense que, puisque c'est la postérité de la femme, il pense tout de suite aux enfants d'Adam. Alors, que va-t-il faire? Comme il est meurtrier et qu'il est du malin, eh bien, qu'il est le malin, il va s'emparer de quel cœur? La première victime dans ce monde, premier assassinat, c'est qui? C'est Abel. Et qu'est-ce que vous lisez dans Jean, l'épître de Jean, au sujet de ce péché? Il est dit ceci. C'est pour ce enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car dès le commencement, le diable a péché, ou pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et puis au verset 12, ne soyez pas comme Caïn, car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre, non comme Caïn, qui était du méchant. Qui était le méchant? C'est Satan. Satan s'était emparé du cœur de Caïn et il a tué son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors, Satan n'a pas pu empêcher la création d'Adam, la création d'Ève, la création du premier homme, mais il va essayer de s'attaquer à sa descendance, puisque c'est de cette descendance que doit naître le Messie. Alors, il tue Abel. Mais le Seigneur intervient, et qu'est-ce qu'il donne? En réponse au crime d'Abel, il donne un nouvel enfant à Ève, Seth, le remplaçant. Mais maintenant, Satan regarde cette lignée de Seth, de ceux qu'on appelle aussi les fils de Dieu, ceux qui invoquent l'Éternel, et il sait que c'est de là que va sortir le libérateur. Alors, il rend les hommes si mauvais, une fois qu'Adam a été chassé du jardin d'Éden, malgré que Dieu lui a montré toutes ses compassions, eh bien, il rend les hommes si mauvais que Dieu, à un moment donné, ne peut plus les supporter. Il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, chapitre 6 de la Genèse, parce que ses pensées sont méchanceté en tout temps, en tout temps. Et qu'est-ce que Dieu décide? Il décide d'anéantir la race humaine. Mais qui est-ce qui a rendu les hommes meurtriers, injustes, violents? C'est Satan, avec ce mélange des anges et des filles des hommes, des esprits mauvais. Alors oui, ça faisait des géants, c'était quelque chose de grand. Et alors le déluge vint. Et combien sont-ils restés d'hommes sur la terre? D'hommes et de femmes. La race humaine a été réduite à combien? À 8. Alors il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Vous dites que Satan a presque réussi, mais les 8 sont sauvés par l'arche. Et alors après, eh bien les enfants de cette descendance de Noé sont tombés dans l'idolâtrie, se disant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, invisible en des images visibles, et ils sont allés toujours plus bas, d'abord d'hommes, ils ont adoré les hommes, puis après des animaux, des quadrupèdes, puis ensuite des reptiles, puis ils ont adoré la pierre, ils sont venus toujours plus bas. Et c'est au sein de ce paganisme que tout à coup Dieu reprend l'offensive et il apparaît à qui? À un païen, Abraham, qui est là, dans le pays de Nimrod, le grand chasseur devant l'Éternel, celui que les hommes adorent. Et Dieu se révèle à Abraham. Et on apprend que c'est de cet Abraham que va naître qui? Le Messie. Cet être qui sera en bénédiction, non pas seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations de la terre. Mais ensuite, on apprend que celui-là va naître dans la tribu de Judas, prenez le 49 de la Genèse. Alors on sait maintenant que c'est de la tribu de Judas que le libérateur doit naître. Alors, il essaie de ruiner la tribu de Judas, d'abord avec Tamar, n'est-ce pas? Il y a l'inceste, il y a tout ce que vous voulez, et pourtant Dieu va nommer Tamar dans les descendants du Seigneur. Donc, c'est quand même lui qui règne. Et Tamar, qui a commis l'inceste avec son beau-père Judas, parce que Judas n'a pas été fidèle au principe de l'Éternel, il n'a pas donné son fils à la veuve, eh bien, malgré cela, c'est bien de Judas que va naître le Seigneur.
mais de Judas avec les 12 tribus qui seront en Égypte, qu'est-ce que Satan va faire? De nouveau une attaque terrible. Il se met dans le cœur du Pharaon pour exterminer tous les fils, toute la race d'Israël, en faisant mourir les mâles. Après, il n'y aura plus d'enfants. Mais voilà que Dieu suscite qui? Moïse. Et alors, c'est toute l'histoire de Moïse. Ça se tient, la parole, chers amis. Il y a un lien merveilleux. Et c'est l'histoire de Moïse. Et Moïse devient le libérateur d'Israël. Mais, quand Dieu voit que les Égyptiens, quand Satan voit que les Égyptiens ont trouvé la mort dans ce qui a sauvé Israël, de passer la mer Rouge, que va faire Satan? Il va essayer de faire mourir tous ces gens au désert. Et combien est-ce qu'il en a fait mourir? 600 000. Ils étaient partis 600 000 d'Égypte. Et combien de ceux qui étaient partis d'Égypte sont restés? Deux. Qui? Josué et Caleb. C'est quand même extraordinaire. Il a essayé de tout détruire. Puis ensuite, alors, vous arrivez à David, qui est de Juda, bien sûr, de Bethléem, fils d'Isaïe, et alors des descendants de David, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a le petit, comment s'appelle-t-il? Joab. Toute la semence royale a été massacrée, mais Jéhoiada et sa femme enlève le petit Joab et Athalie, qui avait voulu tout massacrer, c'est elle qui est elle-même tuée. Et finalement, il y a eu l'histoire des Maccabées, où il y a eu toutes les persécutions, il y a eu la Babylone, il y a eu tout cela. Mais finalement, le temps étant venu, le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu avait donné la loi pour essayer de convaincre l'homme de l'incapacité dans laquelle il se trouvait d'accomplir la loi. Il avait cette prétention, hein, que Dieu nous donne sa loi et nous la ferons. Alors Dieu dit, ben, faites ces choses et vous vivrez. Mais est-ce que la loi les a fait vivre? Non. Ils ont transgressé la loi et c'est à cause de cela qu'ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Mais ça n'a pas empêché donc Dieu d'accomplir son dessein, et c'est Marie qui est finalement visitée alors que les Romains sont dans le territoire. Et puis vous pouvez continuer dans cette ligne qui vous montre le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait avant la fondation du monde? Bien, il dressait tout ce plan qui allait avoir son accomplissement pas à pas. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, mais la pauvre Marie, quand elle revient chez Joseph, Joseph ne la croit pas, et elle est menacée de quoi? De mort. Elle est menacée de mort. Il veut tuer Marie. Si Joseph n'admet pas cette histoire de la conception miraculeuse, selon la loi, Marie doit être lapidée ou brûlée. Et alors voilà que un ange, voilà, hein, l'action des anges. Un ange est envoyé à Joseph, ne crains pas de prendre ta femme. C'est absolument passionnant. C'est mieux que les histoires des mille et une nuits. Et voilà que l'ange convainc Joseph, et il prend sa femme chez elle, mais il ne couche pas avec elle. Et ensuite, il y a la naissance, mais une naissance aussi très scabreuse. Elle va enfantée dans une étable, dans une écurie, loin de tous les soins d'hygiène, il pourrait mourir. Puis il n'y a pas que cela, c'est ensuite Hérode, dans le cœur duquel Satan se trouve, pour détruire l'enfant qui vient de naître. Il n'a pas pu empêcher sa naissance, et bien il va essayer de le tuer par le massacre de Bethléem, qui était déjà annoncé dans Jérémie. Mais l'ange est là pour conduire Joseph et Marie et l'enfant Jésus en Égypte. Et là, eh bien,
les Égyptiens. C'est pour ça qu'il y aura une bénédiction pour les Égyptiens. Vous pouvez être sûr de cela. Il y aura une bénédiction. L'Égypte sera finalement associée à Israël. Et il y aura une bénédiction parce que l'Égypte a été secourable pour le Fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu se souvient de tout cela. Puis ensuite, alors, ils reviennent à Bethléem. Celui qui voulait faire mourir est mort, Hérode est mort, mais il y a ces 30 ans d'obscurité à Nazareth, et puis on aura complètement oublié la naissance à Bethléem, et on dira toujours Jésus de Nazareth. Mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Les gens ne croiront pas, parce que le Messie, mais lisez les Écritures, le Messie ne doit pas naître à Nazareth, il doit naître à Bethléem. Il y a 30 ans, ça s'est passé, qui est-ce qui s'en souvient? Les bergers sont peut-être morts. Marie peut dire cela. Joseph est mort. Jésus a secouru Marie. Il a eu le métier de charpentier. Puis un jour, eh bien, il va trouver Jean-Baptiste. Et puis c'est le baptême. Et puis le ministère de Jésus. Et alors, dans ce ministère, vous pouvez voir, dans tout le ministère des évangiles, ce qu'il avait vu auprès du Père. Dans l'éternité, si j'ose dire ainsi, passée, il était avec le Père, il savait ce qui plaisait au Père, ce qui faisait plaisir au Père, et parce qu'il aimait le Père, eh bien, et qu'il partageait sa pensée. Vous savez, c'est quelque chose, hein. Jésus aurait pu dire, mais Père, je te suffis. Non, le Père, qu'est-ce qu'il voulait? D'autres êtres qui soient comme Jésus. Il voulait peupler la terre et le ciel d'êtres qui soient semblables à Jésus. Une famille merveilleuse. C'était le plan de Dieu, mais nous ne pouvons pas assez méditer la parole pour nous remplir de ce qui se faisait avant la création du monde. Tout était prévu. C'était son conseil, c'était son désir. Et qui va être envoyé maintenant? Est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est un ange? Non. C'est le Fils qui dit, c'est moi qui irai. Tu n'as pas voulu d'offrande ni de sacrifice, alors j'ai dit, je voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il était l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Et bien maintenant, l'heure était venue. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alors vous voyez, tout se tient, on arrive dans le Nouveau Testament. L'Ancien a été qu'une préparation. Et puis, alors il y a le Seigneur baptisé, le témoignage de la Trinité, Père, le Père qui parle, le Fils qui est baptisé, le Saint-Esprit qui descend sur lui sous une forme corporelle, puis immédiatement, l'Esprit l'amène au désert et il est tenté par le diable. Le diable est là. Au début, il n'a pas pu empêcher sa naissance, il n'a pas pu le faire mourir dans le massacre de Bethléem, et alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Satan essaye de le détourner du plan de son Père. Si tu es le Fils de Dieu, change tes pierres en pain, jette-toi du haut du temple, et puis tout le monde t'acclamera. Ou si tu veux m'adorer simplement, bien, tu n'auras pas à souffrir. Tous tes royaumes de la terre, je te les donne, parce que je les ai reçus. C'est un menteur, Satan. Il a usurpé ce pouvoir. Mais le Seigneur reconnaît qu'il est le prince de ce monde, Satan est le prince de ce monde, et alors il lui dit simplement, arrière de moi Satan. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons traiter Satan comme Jésus l'a traité. Nous n'avons rien à faire avec lui. Il est le prince de ce monde. Mais alors, nous n'avons rien à faire avec ce monde non plus. Nous ne sommes plus du monde. Nous n'avons plus les raisonnements du monde. Le monde peut vous dire tout ce qu'il veut. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes déjà d'en haut. Alors, vous connaissez les œuvres du Seigneur, vous connaissez maintenant le moment terrible où Satan a cru triompher. Et c'est le moment de la croix où il a été brisé. Il a blessé le Seigneur au talon, comme la prophétie le disait, il l'a atteint dans son humanité, parce que c'est par le talon que nous touchons à la terre, mais il est ressuscité par sa propre puissance et par la puissance du Saint-Esprit. Et ressuscité, il est monté et dans la gloire. Et alors, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, dans le plan éternel, je vous l'ai dit le premier soir, ils avaient conçu l'Église, le corps de Christ, des hommes et des femmes que Jésus aurait rachetés. Dieu, dans son conseil éternel, disait, je vais te donner au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Puis dans son conseil éternel, il lui dit, je te donnerai les sauvés. Tous ceux qui sont sauvés du monde seront à toi. Alors nous sommes à qui? Nous sommes au Seigneur. Hein. Si nous avons accepté Jésus, nous lui appartenons et nous lui appartenons pour toujours. Nous sommes au Seigneur. Que c'est merveilleux. Nous sommes au Seigneur. Et qu'est-ce qui va se produire maintenant? Ben, comme Satan n'a rien pu empêcher, et qu'il n'a pas pu empêcher Jésus de retourner auprès du Père, et qu'il n'a pas pu empêcher le Père d'envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, de sorte que le Saint-Esprit, il est où maintenant? Il est dans l'Église. Il est le Consolateur, il est dans nos cœurs, nous n'avons pas un Jésus à côté de nous, nous n'avons pas un Jésus au fond du ciel. Nous avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit est une personne qui fait habiter le Père dans notre esprit, Jésus dans notre âme, et le Saint-Esprit dans notre corps. L'homme est rempli tout entier de l'Esprit de l'âme, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Si nous acceptons le Dieu tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais que va faire Satan? Bien voilà, il ne peut pas attaquer Dieu, mais qu'est-ce qu'il attaquera? Les chrétiens. C'est là que vous pouvez voir la haine de Satan, puisqu'il ne peut plus attaquer le Seigneur. Hein. Il ne meurt plus. Il va vous attaquer, vous, et essayer de ternir l'image de Dieu. En vous, parce que c'est vous, c'est moi qui devons montrer, nous devons montrer l'image de Dieu dans ce monde. Et pourquoi Satan est plus contre les chrétiens que les mondains, que contre les mondains? Les mondains sont à lui, hein. Les mondains, eh ben, ils règnent sur eux. Alors, ça n'intéresse pas tellement. Les mondains, ben, ils peuvent avoir une belle vie. C'est pour ça que bien souvent, les chrétiens, quand ils regardent les mondains, ils disent, mais eux, ils ne croient pas, puis ils sont plus heureux que nous. Ça ne devrait pas être ça. Hein? On ne devrait pas dire ça. Parce que nous sommes les disciples de l'homme de douleur. Et nous sommes associés à lui dans ses souffrances, parce que si nous souffrons avec lui maintenant, nous régnerons avec lui. C'est que nous ne connaissons pas ce qu'est le monde. Parce que si nous savions ce qu'est le monde, nous dirions, le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié Jésus. Alors je ne peux pas régner là où Jésus a été crucifié. Je ne peux pas avoir un trône maintenant où mon Sauveur a été crucifié. Un jour, le Seigneur sera sur le trône. Et c'est quand il sera sur le trône que nous serons avec lui sur son trône. Nous régnerons avec lui. Eh bien, tout ça, c'est dans le plan éternel de Dieu. Alors maintenant, ben, que va faire Satan? Ben, il sait qu'il a peu de temps. Et ce qui va arriver dans peut-être ces semaines, ces mois, je ne vais pas donner de date, mais le monde va aller de mal en pis, et du reste on voit déjà. Peut-être qu'il y aura tout d'un coup une espèce d'accalmie, puis les gens diront paix, paix et sûreté, parce qu'ils croiront qu'il y arrive. Et il est dit, une subite destruction viendra sur eux. Et du reste, même les savants le disent, on ne sait pas où va le monde, qu'est-ce qui va arriver. Mais nous, dans la parole, nous avons les dernières nouvelles. Mais qu'est-ce que Jésus a dit avant de partir? Si je m'en vais, je vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. On nous dit, mais non, mais le retour du Seigneur, il revient en gloire avec les armées célestes, et il ne peut revenir en gloire que quand le monde sera converti. Vous savez, quand le monde sera converti par l'Évangile, à la Saint-Jamais. Vous connaissez la date de la Saint-Jamais? Ça ne sera jamais. L'Évangile ne va pas convertir le monde. L'Évangile a été donné pour amputer le monde, pour arracher des âmes au monde, pour faire de ces âmes un peuple céleste, un peuple de Dieu. Mais jamais le monde va s'améliorer. Il ira de mal en pis. Malgré toutes les inventions, malgré tout le progrès dont nous pouvons même jouir, mais que nous n'allons pas adorer, mais nous sommes dans un plan plein paganisme. Mais cette Église sera enlevée auprès du Seigneur. Et ce qui nous fait croire que c'est très proche, parce que l'Écriture nous dit que le peuple d'Israël, qui aurait dû être fidèle, qui était tant infidèle, mais qui maintenant est retourné en Israël, régné en Israël, eh bien, nous sommes proches de la venue du Seigneur. Alors, quand l'Église aura été enlevée, ce peuple d'Israël, pour avoir la paix, fera une alliance avec ce qui est en train de se préparer, cette bête, la quatrième, qui a été blessée à mort et puis qui ressuscite. Bien, qu'est-ce que c'était, cette bête? C'était l'Empire romain. Et bien maintenant, sous une autre forme, il est en train de se recréer les États-Unis d'Europe. Et qu'est-ce qu'Israël va essayer de trouver? Un appui, ce côté-là. Et c'est à ce moment-là, quand le Seigneur aura enlevé les siens, une énergie d'erreur viendra sur le monde, une puissance d'iniquité viendra sur le monde, et tous ceux qui ont entendu l'Évangile et qui n'y ont pas cru, qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, il est dit qu'ils croiront au mensonge, et ils deviendront les milices de l'Antichrist. Le diable sera chassé du ciel par le grand combat avec l'ange Michel, et l'accusateur des frères sera mis de côté, l'Église sera dans le ciel, mais Israël, ayant fait cette alliance fausse avec un être qui se fera acclamer à Jérusalem comme étant le Christ. Jésus l'a dit, vous ne me recevez pas moi, hein, mais il en viendra un autre. En son propre nom. Moi, je suis venu au nom de mon Père, mais il va en venir un autre. Et celui-là, vous le recevrez. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le chapitre 5 de Jean qui dit ça. Jésus dit, celui qui viendra en son propre nom, vous le recevrez. Et Israël est prêt à reconnaître ce surhomme, mais par la grâce de Dieu, il y a d'autres Israélites qui, méditant la parole, se rendent compte que le vrai sauveur, c'est celui qui est venu comme l'agneau et qui reviendra comme le lion de la tribu de Juda. De sorte que l'alliance qu'ils auront faite avec la bête, qui est appelée la bête, donc on ne pense plus à Dieu, la bête ne pense pas, eh bien, cette alliance sera rompue et ce sera la grande tribulation pour Israël. Et c'est dans cette tribulation que des Juifs reviendront au Seigneur comme le fils prodigue dans la tribulation est revenu à son Père. Et ils n'ont pas même besoin du Nouveau Testament, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que maintenant en Israël, on publie, et même les Juifs, Souraki a traduit aussi le Nouveau Testament en disant le Nouveau Testament c'est l'héritage juif aussi. Alors, mais ils n'ont pas même besoin du Nouveau Testament pour croire au Messie, ils se lamenteront, il y aura une grande tristesse sur Israël et ils se tourneront vers celui qu'ils auront percé. Dieu aura des nouveaux témoins qui annonceront l'Évangile à toutes les nations de la terre et ça ira très vite avec les moyens de communication que nous avons maintenant. C'est pourquoi ce n'est pas l'Église qui va finir le travail, comprenez-vous ? On nous prétend qu'il faut d'abord que l'Église finisse le travail d'évangélisation du monde et que c'est seulement après que le Seigneur pourra venir que nous pourrons dire « Seigneur, tu peux venir, nous avons tout fait. » Nous avons tout fait. Ouais, c'est ça l'homme. Et c'est ces pensées-là qui sont même dans les Églises et qui prennent jusque dans les milieux évangéliques, dits évangéliques. Alors qu'on y est bien loin. On ne connaît pas la parole. On a son petit partage, on lit ses petites portions, mais on n'a pas une idée des grandes lignes bibliques où tout se tient. Et c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Et alors, il reviendra avec les armées célestes et nous serons à ce moment-là avec lui. Les morts auront été ressuscités premièrement et pour la première fois, quand il revient en gloire, eh bien, c'est le Christ total qui apparaît, tête et corps réunis. L'unité des croyants sera vue dans le retour du Seigneur. Ce n'est pas nous qui pouvons former l'unité, mais l'unité du corps de Christ sera manifestée quand la tête et le corps descendront du ciel. Jésus ne descend pas seul, il descend avec les siens qu'il a préalablement ravis en sa présence pour nous rendre semblables à lui, car à ce moment, nous le verrons tel qu'il est. Et puis, c'est lui qui anéantira les nations à Armageddon, et nous sommes proches de ce temps-là, puisqu'il semble que tout ça doit se passer dans cette année. Je ne commence pas, je ne vous dis pas où commencer cette année, d'abord je n'ai pas le temps, mais nous sommes proches de tout cela. Alors on nous prépare l'an 2000, etc., mais le monde peut faire tout ce qu'il veut, ça c'est le monde. Mais nous, est-ce que nous avons des convictions? Eh bien, j'ai dépassé mon heure, je m'excuse pour nos amis. On va vous dire de partir en vitesse après la collation, parce que c'est une petite collation. Puis j'espère que, malgré toute ma faiblesse, vous aurez le goût aussi de ces questions prophétiques où il ne faut pas dire plus qu'il n'en est dit, mais il faut que vous sachiez qu'avant de créer le monde, Dieu avait un plan. Et que son plan, c'est de réunir en un toute chose, de réunir tout dans le Christ. Mais il faut qu'il règne. Donc, il y aura un règne de paix sur la terre, mais présidé par le Seigneur. Nous régnerons avec lui, et puis à la fin du règne, tous ces enfants qui seront nés dans le règne, sous la domination du Seigneur, quand le lion ne fera plus carnassier, quand il mangera de l'herbe comme le bœuf, un temps extraordinaire, pendant 1000 ans, mais les jeunes qui naîtront dans cette période-là, ils devront se convertir. Et s'ils ne se convertissent pas, qu'est-ce qui leur arrivera? Ben, le mal pendant le règne ne sera pas toléré. Il y aura la peine de mort. Tous les matins, exécution de ceux qui transgressent la parole du Seigneur. Donc, quand il y a l'exécution comme ça, les gens font le poing dans la poche. Et ils se soumettent. Mais si ce n'est pas du cœur, quand l'occasion leur sera donnée de manifester vraiment ce qu'ils sont, à la fin du règne, eh bien le diable viendra. Le diable aura été lié pendant le règne, il n'aura pas pu travailler, mais quand il sera délié, il n'a pas changé, qu'est-ce qu'il fera? Il essayera de séduire toutes les nations qui auront eu combien d'années de paix? 1000 ans de paix. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils essayeront de se révolter contre le Seigneur. Après 1000 ans de paix, le cœur de l'homme n'aura pas changé. Et ceux qui se seront soumis simplement par crainte se révolteront, mais alors immédiatement, il dit, le feu du ciel tombera sur eux. Et ils seront anéantis, et c'est la fin du monde. Donc c'est pas pour bientôt la fin du monde, hein. Et en tout cas 1000 ans encore. Et Satan sera jeté dans les temps de feu de soufre, où seront déjà la bête et le faux prophète. Et ce sera le jugement dernier. La résurrection des morts, de ceux qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection. Et ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans les temps de fête. Sauf que nous n'aimons pas à penser à cela. Et Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu notre Père, nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet merveilleux, mais nous voulons te demander que tu nous donnes le goût d'apprendre à connaître ton ta parole, ce plan que tu as établi dès avant la fondation du monde, avant le commencement. Et donne-nous aussi, quand nous commençons quelque chose, de savoir faire un plan. Tu nous as conduit ainsi pour ce camp Mahanaïm que nous désirons voir toujours plus être le camp de Dieu, du vrai Dieu, non pas le camp d'une église, non pas le camp d'une communauté particulière, mais le camp de Dieu, qui est ouvert à toutes les âmes que tu veux sauver par ta grâce, auxquelles tu veux donner la connaissance du salut, puisque ce n'est pas nous qui pouvons sauver, mais nous pouvons travailler à exposer ta parole pour que les âmes arrivent à la connaissance du salut et sachent que leurs noms sont écrits dès avant la fondation du monde dans le livre de vie. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul. Je souffre tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi connaissent leur salut. Que la grâce que nous te demandons, on te prie encore de bénir et de fortifier nos amis qui vont nous quitter, que tu sois avec eux et que tu leur donnes de pouvoir rattraper sans accident le retard que j'ai peut-être involontairement provoqué. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.